7h, 8h, les jardinières.
Le soleil a fait son grand retour cette semaine pour le plus grand bonheur des jardiniers et de tout le monde. Et que faire au potager ce week-end ? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Catiou Racine. Bonjour Catiou.
Bonjour à tous.
Catiou Racine, vous êtes jardinière à Delémont. Vous allez nous apprendre comment soigner notre potager naturellement et bien sûr répondre aux questions de nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin.
Et vous, chers auditeurs, installez-vous confortablement, on parle jardinage et ce jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Les températures grimpent et d'un coup, la nature prend un coup de vert. Le printemps prend ses quartiers. Alors Catiou, quel est le programme du jardinier ce week-end?
Très très chargé, très chargé. Parce qu'en plus, le jardinier, il va manger, sauf erreur.
Des lapins au chocolat.
Des lapins au chocolat, exactement. Alors ce week-end, vu la météo annoncée et vu surtout la période de l'année dans laquelle on est mi-avril... Il faut commencer par faire l'apéro, bon, pas tout de suite là, parce que sinon le week-end va être court. Mais là, on peut vraiment jardiner, on peut quasiment faire tout ce dont on a envie. Donc on va pouvoir soit planter dans le jardin, dans le potager, soit semer, c'est deux choses bien différentes. On pourra commencer de mettre en place certains végétaux, qui seront peut-être juste d'utilité visuelle. Il faut juste faire attention quand même à penser qu'il y a encore les seins de glace qui sont devant nous et non pas derrière. Donc il faudra juste penser à ce moment-là à protéger un peu. Mais pour le moment, laissez-vous aller. Faites vos emplettes aujourd'hui, allez au marché, dans les commerces spécialisés, achetez vos plantons et puis faites-vous plaisir ce week-end.
Justement, Catiou, vous parlez des seins de glace. Est-ce que c'est une tradition, ça fait des années et des années qu'on en parle. Est-ce que même avec le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans un coin de l'œil?
Oui, oui, clairement, c'est toujours entre, aux alentours de mi-mai cette année, sauf erreur, c'est le 12, 13, 14, 15 mai. Il y a quand même très fréquemment des gelées qui sont bien entendu légères. On ne parle pas de moins 15 ou moins 20 degrés, mais certains plantons, comme des petites salades ou des plantons qui sont encore fragiles, pourraient souffrir de ces légères gelées. Il suffit simplement de protéger un peu, de pailler ou de voiler, et puis voilà, c'est pas un grand problème, mais il faut regarder la météo, disons, depuis le 10 mai, et puis surveiller un petit peu.
Et l'affaire est dans le sac. Merci beaucoup, Catiou. Les jardinières, vous le savez, répondent à toutes vos questions qu'on attend jusqu'à 8h par téléphone au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question que vous nous envoyez au 939 où vous remplissez le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez là sous l'onglet émission questions aux jardinières et vous pouvez même y joindre une photo.
Et dans la suite des jardinières, Catiou nous expliquera comment protéger et soigner son potager de façon naturel.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Catiou Racine, jardinière à Delémont, nous prenons soin de votre potager. Les premiers semis sont sortis de terre, maintenant il faut en prendre soin. Catiou, est-ce qu'il faut mettre quelque chose de spécial en place pour prévenir des futures maladies quand on met nos plantons dans le potager en pleine terre ?
Alors, mettre en place quelque chose à ce moment précis maintenant, non. On devrait plutôt déjà être prêt avec notre sol. Et puis, je pense que c'est plutôt justement la préparation qu'il y a en amont qui est importante pour avoir un potager qui n'aura pas trop ou un peu moins de maladies, parce que c'est quand même pas forcément évident. On fera plutôt à l'automne justement la préparation pour ceux qui ont du potager depuis plusieurs années. On se mettra un bon engrais qu'on peut soit trouver chez un agriculteur selon la région où on habite, ou sinon on peut mettre des engrais très naturels. Il existe la raclure de corne, ou alors du fumier de poule ou de bovin qui est desséché en petits granulés. Donc ça, c'est une préparation qu'on fera plutôt l'automne. Et puis l'hiver, avec le gel et des gels, rendra tout cet apport un peu poussiéreux comme ça. Et quand on retournera le jardin au printemps, ça sera bien mélangé, ça sera bien en profondeur et surtout ça sera bien réparti. Donc là, le fait d'avoir un sol qui est bien meuble, bien fertilisé, nous aidera vraiment à avoir un endroit adéquat pour mettre nos plantons. Et surtout, attention, c'est ce qu'on a parlé avant, ne pas planter trop tôt. Pourquoi ? Parce que si on plante trop tôt, nos plantons vont vivoter, vont survivre parce qu'il fera froid la nuit, peut-être beaucoup de pluie, très chaud la journée, il y aura beaucoup de contrastes. Et en fait, ces plantons vont pousser de manière pas du tout adéquate et vont se fragiliser. Et là, on verra une apparition de maladie. C'est un petit peu comme chez nous, en fait. Quand on est fatigué ou stressé, on attrape plus facilement un virus que si on est en pleine forme.
Alors le virus, hein, on parle bien sûr d'un virus bénin, évidemment.
Évidemment.
On parle souvent chez les jardinières du purin d'ortie qui est efficace contre les pucerons. Est-ce qu'on peut aussi l'utiliser de manière préventive pour les plantants ?
Oui, bien sûr. Tous ces purins, toutes ces décoctions, elles sont difficilement curatives, je trouve, quand on a vraiment des grandes invasions. On les mettra plutôt justement en préventif. Moi, je trouve que c'est très bien de les utiliser de cette manière-là parce que il n'y a quand même pas de miracle. Hein. On peut faire du naturel, mais quand il y a des grandes invasions, c'est quand même compliqué de les éradiquer. Alors oui, on peut l'utiliser en préventif. En pulvérisation sur les plantes, et on peut aussi l'utiliser comme fortifiant, je dirais pas comme engrais parce que le mot est un peu fort, mais on peut l'utiliser comme fortifiant au pied de la plante en arrosage. Donc oui, il est très utile en préventif et en fortifiant.
Est-ce qu'on peut l'utiliser par exemple sur des fraisiers ? Ça marche aussi ?
Oui, on peut l'utiliser sur tout. Ce qu'il faut juste faire attention avec ces purins et ces décoctions, c'est de ne pas les mettre sur la floraison. Enfin, tout en général ne doit pas être pulvérisé sur la floraison. Mais on peut mettre absolument sur tout. Et puis il y a différents purins ou différentes décoctions.
Ben justement, on va rester dans ces recettes de purins et décoctions. Katiou, est-ce que vous avez justement d'autres recettes à base de plantes à partager avec nous pour prévenir de certaines maladies des végétaux ou des ravageurs ou simplement pour fortifier ces plantes ?
Bien sûr. Alors, dans les purins, il y aura par exemple le purin de sureau, le purin de rhubarbe ou le purin justement d'ortie. Donc, c'est toutes des plantes en général qu'on trouve assez facilement dans son jardin ou dans la nature, hein, tout simplement. On a le droit d'aller prendre dans la nature quelques feuilles ou quelques kilos de feuilles, parce que là, on parlera en kilos pour faire des purins. Et puis, par exemple, il y a la décoction d'ail aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu moins connu. Là, ça sera contre les maladies puis les champignons. C'est quelque chose qu'on peut utiliser tout au long de l'année, il n'y a aucun problème. Puis si vous voulez, je vous donne la recette. Donc il faudra prendre 500 g d'ail épluché et puis haché assez grossièrement. On met ça trempé 10 à 12 heures dans 5 litres d'eau. On fait bouillir 15 minutes, on laisse refroidir et on pulvérise. Et c'est tout simple. On utilise ça, ça fonctionne très très bien contre les maladies, puis contre les champignons. Et puis en plus c'est sympa parce que ça change un petit peu du purin. On a une autre façon de préparer.
Et bien en plus, vous n'aurez même pas de vampires dans votre jardin, donc c'est pratique.
En plus.
Mylène, on a parlé il y a quelques instants des fraisiers, mais pour les fruitiers, est-ce qu'on peut aussi réagir en amont, histoire d'éviter les vers dans les cerises, par exemple ?
Oui, on peut. Par contre, avec la façon très naturelle dont on vient de parler avant, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on aurait éventuellement une solution, c'est de mettre du sulfate de fer en fin d'hiver, donc en épandage, sous le cerisier, ça fera mourir les pupes. Les pupes, en fait, c'est les larves des vers des cerises. Sinon, dans le commerce, il y a quelque chose qui existe qui est pas mal, là, qui est pas forcément chimique, mais qui est un petit peu moins naturel parce qu'on va aller l'acheter, donc ça change un peu la dynamique. Ce sont des plaques jaunes, on voit ça des fois dans les cerisiers, c'est des plaques jaunes qu'on va accrocher dans le cerisier, on va en mettre 3 ou 4 par sujet, bon, selon la grandeur du cerisier bien évidemment, et puis c'est des plaques qui sont engluées et qui ont des phéromones dessus, donc qui vont attirer divers insectes dont justement la mouche de la cerise et qui va aller se coller dessus au lieu d'aller pondre dans les cerises. Alors après c'est un peu moins esthétique, c'est un peu moins naturel. Mais c'est efficace aussi.
Et on les met maintenant, ces plaques jaunes, ou c'est un peu tôt ?
Non, c'est un petit peu tôt. Il faut attendre encore deux, trois semaines, comme ça.
Merci beaucoup, Katiou. On va se retrouver dans quelques instants et vous nous expliquez comment soigner son jardin avec des produits naturels qu'on trouve facilement dans le commerce, cette fois-ci.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage. Pour débuter votre week-end, ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou Racine, jardinière à Delémont. Katiou, on parle prévention ce matin, prévention des maladies au potager. On trouve dans les jardineries des produits appelés anti-maladies, à pulvériser sur les plantes pour éviter toutes sortes de maladies comme l'oïdium ou la rouille. Alors ces produits un peu à tout faire, où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, vous aurez compris, bonne ou mauvaise idée? C'est pas du tout dirigé ma réponse.
Non, pas du tout, pas du tout.
Absolument pas.
Alors, je vais pas faire de politique à ce sujet-là. Je pense pas que ça soit une bonne ou une mauvaise idée. Ça dépend un petit peu de la culture qu'on a, de comment on a été élevé. Et puis aussi, c'est une question pratique parce que il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ont des petits balcons ou des petites terrasses qui n'ont peut-être pas forcément la place pour faire un purin ou pour faire des choses dont on a parlé avant. Et des petites quantités aussi, tout d'un coup, juste un petit bac. Et puis c'est vrai qu'il peut être aussi pratique d'aller acheter un produit qui, soit dit en passant, moi qui travaille dans le milieu, est beaucoup moins toxique que par les années passées. Donc là, il y a aussi un effort qui a été fait au point de vue des fabricants. On peut très bien pulvériser ces produits-là. Il faut juste respecter scrupuleusement les dosages, ce qui est rarement fait parce qu'on en met toujours un petit peu plus que ce qui a marqué sur la boîte. Et surtout, il y a sur les produits qu'on pulvérise sur les plantes qu'on ne consomme pas, à la limite, ce n'est pas trop un problème. Mais si vous avez des tomates et que vous faites un traitement, il y a derrière la boîte ce qu'on appelle un délai d'attente. Donc là, on va vraiment faire attention de respecter ce délai d'attente entre le dernier traitement et le moment où on va consommer le légume ou le fruit. Donc ça, c'est très important, de manière à ce qu'on... finalement, si on cultive des tomates dans son jardin et qu'elles sont plus polluées que celles qu'on va acheter dans le commerce en grande surface, eh ben, c'est pas la peine de le faire. Donc, il est vraiment important de faire attention avec ces délais d'attente pour notre propre santé.
Donc, on l'aura compris, on va plutôt se tourner vers des choix plus naturels et faciles à trouver. Et c'est justement sur ça qu'on va se diriger dans la suite des jardinières. Le savon noir est un grand classique, mais quelle est son utilité au jardin ?
Le savon noir, oui, c'est un grand classique. Il est antibactérien et insecticide. Et ce qui est pratique avec le savon noir, ben, c'est qu'on peut aussi l'utiliser dans la maison, pour le corps. Donc finalement, si on achète un bidon ou un litre de savon noir, selon si on le prend parce qu'il existe en pâte ou en liquide, eh ben, c'est bien à savoir, parce que parfois les gens disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Donc on peut aussi l'utiliser pour d'autres places que dans le jardin, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Le savon noir, on va le diluer, par exemple, si on a une plante qui a des pucerons, on va diluer 5 cuillères à soupe dans un litre d'eau tiède et puis on va pulvériser ce savon noir. Qu'est-ce qui se passe avec le savon noir? Vu que c'est quelque chose qui est quand même un peu huileux, ça va recouvrir les ravageurs d'une légère pellicule, je dis bien légère pellicule huileuse, donc ça ne va rien faire à la plante. Et en fait, ça va les empêcher de respirer et c'est très simplement mécanique et ils vont tomber. Merci. Ils vont s'en aller.
7h, 8h, les jardinières.
Le samedi matin, on parle jardinage dans votre radio et on répond également à vos questions. Aujourd'hui, c'est Katiou Racine, jardinière à Delémont, qui est notre invitée.
Et vous n'hésitez plus, vous composez sans attendre le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et vous posez votre question en direct à Katiou. Vous pouvez également nous envoyer un SMS en tapant jardin, un espace suivi de votre question et nous envoyer ce message au 939. Ou alors, dernière possibilité, vous rentrez sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières et à partir de là vous pouvez nous envoyer une photo avec votre question.
Et ce matin on s'occupe de votre potager, comment le soigner de manière naturelle. Alors on a parlé du savon noir juste avant la pause météo et inforoute. On va parler du bicarbonate de soude qui s'utilise aussi bien pour le ménage que pour la cuisine, mais ça c'est d'autres sujets, mais il trouve aussi sa place au potager. Alors Katiou, comment on se sert du bicarbonate de soude au potager?
Alors, le bicarbonate, il est agréable. C'est vrai qu'il n'est pas trop connu. Enfin, maintenant, les remèdes naturels viennent bien en force dans le potager, mais c'était quelque chose qui est encore pas trop connu parce que les gens, quand ils entendent soude, ils ont toujours peur. Il faut pas tout confondre. Le bicarbonate de soude est un produit qui n'est pas du tout nocif. Il sera utile en prévention contre le mildiou et l'oïdium. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le mildiou et l'oïdium, ce sont des taches blanches, je ne vais pas expliquer trop en détail, mais c'est des taches blanches un peu poussiéreuses qu'on va commencer à trouver. J'ai vu que chez moi, par exemple, il y en a un petit peu sur les rosiers, là. Ça commence gentiment, c'est un petit peu poussiéreux, ça fait une couche grisâtre, donc c'est une des deux maladies. Donc là, on va l'utiliser, je vous donne aussi la recette. Donc on prend une cuillère à café dans un litre d'eau. On peut rajouter une cuillère à café de savon noir ou bien de savon de Marseille. Et puis on va pulvériser, soit à la plantation si ce sont des plantons. On pourra renouveler ça une fois par semaine. Et si par exemple c'est sur un rosier qui est en place, on peut le faire maintenant. Et il faudra surveiller, en général c'est quelque chose qu'on remet chaque fois qu'il a plu. Une fois qu'il a plu, que la plante a séché, on va repulvériser ce produit sur la plante. Et puis il faut juste faire attention, comme j'ai dit avant, quand les plantes ou les plantons sont en fleurs, donc éviter, parce que le bicarbonate de soude attaque les fleurs, donc ça serait dommage parce que ça va avorter les légumes. Et puis, on parle beaucoup de bouillie bordelaise pour ceux qui jardinent. Il faut faire attention avec cette bouillie bordelaise parce que le cuivre, c'est avec du cuivre et ça charge le sol en cuivre. Et pour éviter d'utiliser cette bouillie bordelaise, justement, on peut faire cette solution au bicarbonate de soude qui fera exactement le même effet que la bouillie bordelaise. Et puis, on peut encore l'utiliser d'une autre façon si on veut désherber, par exemple, une place en pavé. Vu qu'on n'a plus le droit d'utiliser des produits chimiques pour désherber les places en dur, eh bien on pourra le mettre en épandage, le bicarbonate de soude, et il fera vraiment effet contre les mauvaises herbes sur les places en dur.
Merci beaucoup, Katiou. On a vu qu'il y a plein de solutions, mais j'ai peut-être une question bête, mais est-ce qu'un arrosage qui serait mal fait pourrait aussi affaiblir nos végétaux, voire carrément les rendre malades ?
Oui, l'arrosage est une des clés d'un bon potager. Là, on va parler vraiment principalement du potager. Je ne suis pas pour arroser le reste du jardin le reste de l'année. C'est pour ça que je parle du potager, parce que je pense que les autres plantes n'ont pas vraiment besoin de nous le reste de l'année. Si on parle du potager, oui, effectivement, l'arrosage, il sera très important. Ça sera la clé du succès contre les maladies et les ravageurs. Par exemple, l'arrosage se fait soit très tôt le matin, c'est-à-dire avant l'arrivée du soleil ou vraiment quand le soleil se lève. Là, on parle donc de la belle saison, hein, de l'été. Ou alors en fin de journée, quand il fait moins chaud. On fera attention de ne pas arroser par-dessus les plantes. Pourquoi ? Parce que si on fait ça, ça va développer des maladies. Ou alors, si on le fait un peu tard, genre à 10 heures quand on est au mois de juillet, eh ben, le soleil va faire loupe sur nos plantes et va brûler nos plantes. Ou alors, si on arrose beaucoup trop et puis qu'on a un sol qui est trop mouillé, les racines vont pourrir. Donc là aussi, ça va faire mourir la plante. Et puis, ce qu'on peut faire aussi pour réguler nos arrosages, on peut aussi pailler notre jardin ou mettre des copeaux ou mettre ce qu'on veut dessus pour éviter que l'eau ne s'évapore trop vite. Donc là, on fera un arrosage le matin. On pourra rester tranquillement toute la journée. Le sol restera bien humide. Il y aura quand même un échange entre le sol et puis l'air. Et puis, ça gardera cette humidité, donc on fera aussi une économie d'eau. Et le secret, quand j'ai fait mon apprentissage à l'école d'horticulture à Lullier, on nous disait toujours un bel adage, un binage égale deux arrosages. Donc, n'oubliez pas de gratter la croûte qu'il y a sur votre jardin, parce que comme ça, ça donne une perméabilité au sol qui est très bonne et qui favorise vraiment un bon échange entre l'eau et l'air.
Et Katiou, avec tous vos conseils, si on se retrouve quand même avec des légumes malades, on fait quoi ? On les enlève ?
Oui, alors les légumes malades, il faut savoir que ces maladies telles que l'oïdium, le mildiou, tout ça, c'est des maladies cryptogamiques, donc ce sont des champignons. Et on sait très bien que les champignons, à part les morilles, hein, se reproduisent très très vite et vont vite de plante en plante. Donc il faut vraiment enlever ces plantes malades. Et puis si on a un compost qui est assez loin de notre potager, on peut les mettre sur le compost, parce qu'entre le soleil très chaud, l'hiver et tout, le gel, le dégel, ça va tuer ces champignons. Mais si on a un compost qui est vraiment trop proche, moi je vous conseille de les mettre dans des sacs plastiques qui sont bien fermés, et puis après de s'en débarrasser d'une autre manière ou de les brûler pour éviter que ces champignons n'aillent se propager sur d'autres plantes. Parce que quand il fait vraiment chaud au mois de juin, comme ça, juin, juillet, chaud et humide, et ben ça va très très vite.
Merci Katiou. Pour terminer très rapidement, on sait que les humains prennent parfois des vitamines. Est-ce qu'il existe aussi ce genre de traitement pour les plantes ?
Oui, bien sûr. Alors là, justement, on revient dans ces purins d'ortie, de rhubarbe, etc., qu'on peut aussi utiliser, comme on l'a dit en début d'émission, en fertilisant, en engrais, entre guillemets. On peut aussi faire différemment. Par exemple, si on plante une grande plante, on peut mettre des orties dans le trou de plantation. Là, ça marche super bien. Donc, vous allez faucher quelques orties. On peut, si vous avez une cheminée, puis vous avez fait une bonne côte de bœuf, vous gardez les cendres, vous mélangez ça avec de l'eau. Ça a un grand pouvoir nutritif en arrosage. En plus, ça fait fuir les limaces et les escargots. Ils n'aiment pas trop ça.
Et les végétariens?
Et les végétariens.
Ils nous laissent la côte de bœuf.
Ouais, c'est ça. Moi, ça me va, hein, perso. L'eau de cuisson des légumes aussi est pleine de nutriments et de sels minéraux. Donc, si vous faites une bonne soupe, vous cuisez vos légumes, vous avez trop d'eau, vous pouvez très bien arroser vos plantes avec ça. Et puis, l'éternel marc de café. Celui-là, on l'utilisera plutôt sur les plantes à fleurs, telles que les rosiers, les hortensias, les magnolias, etc.
Rien ne se perd, tout se récupère.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Katiou. Maintenant, plus d'excuses pour avoir un potager en pleine santé toute l'année. On va se retrouver après une pause musicale pour répondre aux questions de nos auditeurs.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Katiou Racine est là pour vous, pour répondre à vos questions jardinage. Alors, juste avant de répondre aux questions que nous avons déjà reçues, Raphaël, on peut rappeler comment nous les poser, ces questions?
Par téléphone au 0901 70 20 20. Vous parlez directement avec nous et avec notre professionnel. Autrement, vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question au 939. Ou alors faire comme Stéphane qui nous a posé la question que l'on va entendre d'ici quelques secondes, par le formulaire sur notre site internet.
Exactement, Stéphane de Gampelen qui nous écrit, qui nous dit bonjour et merci pour vos précieux conseils. Et la question est la suivante, enfin plutôt les questions sont les suivantes, Katiou. Il demande quand tailler ses photinias et il précise aussi qu'une d'elles a comme des taches noires sur ses feuilles, des feuilles qui sèchent. Il demande que faire. Et puis finalement, il aimerait aussi tailler ses beaux forsythias. Il demande aussi quand le faire. Alors on va déjà prendre dans l'ordre quand tailler ces fameux photinias.
Alors, les photinias se taillent après la floraison. On peut faire ça, c'est pas handicapant du tout pour la plante, parce que c'est une plante qui est robuste et très vigoureuse. Donc, une fois que la floraison est finie, là, on peut tailler. On va lui donner soit une forme, soit réduire, parce que cette plante aura été justement vigoureuse, puis aura peut-être pris trop de place. Donc là, il n'y a pas de souci. Après la floraison, il peut tailler sans problème. Et on peut faire une deuxième taille à la fin de l'hiver, je dirais, parce que quand ils ont fleuri, puis qu'on les taille là, ils sont en feuilles, et puis on verra pas forcément à l'intérieur de la plante, selon la grandeur du sujet, s'il y a du bois mort, s'il y a des branches qui sont peut-être mal placées. C'est important dans les arbres ou les arbustes d'avoir des branches qui sont bien placées, qui ne se gênent pas, de manière à ce que tout le monde puisse prospérer tranquillement. Donc à la fin de l'hiver, quand les arbres seront nus, là on prendra la peine de regarder s'il y a du bois mort, s'il y a des branches qui sont peut-être fragiles ou qui sont mal placées, et puis là on fera une deuxième taille.
Et pour ces taches noires qu'il y a sur ces feuilles sèches, on enlève les feuilles sèches, qu'est-ce qu'on peut faire?
Exactement, exactement. Bon, ça dépend un peu, c'est pas évident quand on n'a pas le sujet sous l'œil. On peut enlever les feuilles noires, on peut faire ça mécaniquement. À mon avis, c'est une des meilleures manières de faire. Si vous avez des arbustes qui sont malades ou qui commencent d'avoir quelques maladies, ou même les plantes d'intérieur, n'hésitez pas à couper, à enlever ce qui est malade. Puis, comme je vous ai dit avant, à vous en débarrasser, ne pas mettre ça trop près, de manière à ce que ça se propage pas.
Et puis pour le forsythia, parce que j'ai cru que Mylène s'avait fait la scène micro-sieste.
Non, je suis là, j'écoutais attentivement Katiou. Alors on va parler de la taille des forsythias.
Alors le forsythia, c'est exactement la même chose. Il a gentiment fini de fleurir. Maintenant, ça dépend un petit peu des régions. Quand on se promène, si on ouvre l'œil, on voit ça. Alors là, c'est la même chose. Une fois qu'il aura fini de fleurir, on pourra tranquillement le tailler. Attention, ne faites quand même pas des tailles trop sévères, parce que ce sont des arbres qui sont maintenant en sève. Donc ils sont vraiment présents. Donc si on va trop les embêter, c'est clair qu'ils réagissent assez vivement. L'inverse de l'hiver. L'hiver, vu qu'ils ont la sève qui est en bas, c'est un peu plus calme comme réaction, mais vous pouvez sans autre les tailler, leur donner une forme et puis les faire tout bon.
Bon, on espère que ces conseils aideront notre ami Stéphane. Merci en tout cas pour vos questions. On va enchaîner avec celle de Ludovic de Cernier. Bonjour, j'ai un jardin en gazon synthétique et j'ai souvent de la mousse qui pousse. Existe-t-il un moyen d'éliminer cette mousse à part l'enlever manuellement en frottant? Bonne journée.
Oh là là, la mousse, c'est très sympa ça. Alors, Le meilleur moyen de l'enlever, c'est de passer un coup de nettoyeur haute pression, hein, donc comme on appelle chez nous de Karcher pour pas donner de marque. C'est un moyen mécanique assez rapide et puis avec la pression de l'eau, ça fait partir la mousse. Mais à savoir une chose, c'est que la mousse, si elle s'installe, c'est parce qu'il y a les conditions pour qu'elle puisse s'installer. Donc on a beau enlever de la mousse, ce sont souvent des endroits qui sont très ombragés, assez humide. Donc forcément, on va enlever cette mousse, soit en frottant, soit avec le nettoyeur haute pression, où il existe quelques produits, par exemple, comme le sulfate de fer. On peut mettre du sulfate de fer dessus. La mousse n'aime pas trop ça. Elle vient brune, mais c'est clair qu'elle va pas mourir. Elle va sécher sur place et après, il faudra quand même balayer ou gratter avec, ça dépend de l'endroit. Mais il faut vraiment essayer, dans la mesure du possible, de régler le problème plutôt de l'endroit. C'est-à-dire que si on a un endroit, par exemple, bon là c'est un gazon, mais si on avait un endroit où il n'y a pas grand-chose, on pourrait bien s'imaginer décaper et puis faire un petit endroit un peu plus rocailleux où on aura plus trop de végétaux qui viendront là-dessus, donc aussi un peu moins de mousse. C'est vraiment l'endroit qui est déterminant.
Donc prendre le problème à la base. On va se retrouver dans un petit instant pour la suite et la fin des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
En première partie d'émission, Katiou nous a partagé tous ses bons conseils pour soigner son potager de manière naturelle. Des conseils à réécouter en podcast sur la page des jardinières, ça sera en cours de matinée. Katiou, avant de vous laisser filer, dites-nous, on va chercher des œufs et des lapins en chocolat ce week-end dans le jardin. Qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre ?
Alors, ce week-end, dans le jardin, vous pouvez tout faire. Mais n'oubliez pas de mettre de la crème solaire et de vous décapsuler une bière.
Et c'est un chapeau.
C'est au moins le mérite d'être clair. Merci en tout cas beaucoup, Katiou. On rappelle que vous êtes jardinière à Delémont. On vous remercie pour votre visite et votre bonne humeur. On
Avec
vous souhaite
plaisir.
Un très bon week-end et on vous dit à très bientôt.
Merci à vous aussi.
Merci, Katiou. Samedi prochain, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Il répondra en direct à toutes vos questions jardinage. Des questions que vous pouvez nous envoyer à tout moment, soit par SMS au 939 en tapant jardin suivi de votre message ou via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières. On se retrouve donc samedi prochain à 7h. On vous souhaite un bon week-end de Pâques.
Oui, bon week-end. Et puis, surtout, mangez pas trop de chocolat. Hein.
Mais si, mangez-en beaucoup trop. Et puis voilà, bon week-end. À samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.